Alors ce matin, on a fait un petit état des lieux du terme de Lochenvel. On s'est interrogé sur les impacts, les enjeux. On a aussi eu nos camarades, nos amis de la Creuse qui sont intervenus et qui nous ont aussi expliqué la situation là-bas. Ici, au niveau du terme de Lochenvel, donc le collectif de Wargidoul s'est créé il y a plusieurs mois pour s'interroger, pour informer, et surtout pour être contre ce projet. Mais il y a aussi un collectif d'élus qui s'est créé suite à cette demande de permis sur le territoire de Lochenvel, donc 25 communes. Donc, je rappelle que l'ensemble des maires des 25 communes ont été invités aujourd'hui. Seuls quelques-uns sont venus. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir la maire de Lochenvel, qui est à l'initiative, madame la maire de Lochenvel, qui est à l'initiative de ce comité de suivi. Ainsi que M. François Varet, maire de Bizantin. Et donc, ça va permettre d'avoir un petit historique de leur démarche, voir un petit peu où ils en sont, quelles sont leurs relations avec les services de l'État. Enfin, on leur laisse la parole et je pense qu'ils seront très contents de répondre également à vos questions. Merci de votre attention.
Merci. Pour commencer, je sais pas si François, toi, je vais faire un bref historique un petit peu des nouvelles quoi qu'on a eues. Donc ça a commencé fin mai par un courrier de la préfecture annonçant une demande de perm de Lochenvel, donc permis d'exploitation de recherche minière. Un CD-ROM était fourni donc avec les documents explicatifs du terme de la demande. L'ensemble des mairies, donc les 25 communes concernées, ont reçu ce courrier. À Lochenvel, après discussion donc au conseil municipal, on a émis déjà un avis défavorable parce que ce courrier nous demandait un avis défavorable. Pour le 30 juin, sachant qu'on n'avait aucune information. La réunion d'information aurait lieu après. Donc de là, c'est vrai que nous, les maires, on s'est concertés. C'est ça l'avantage aussi d'être en milieu rural, c'est qu'on se côtoie et on en discute. Et beaucoup ont alerté donc la préfecture en demandant une réunion d'information avant donc de pouvoir émettre un avis. Ce qui a retardé, on a eu cette réunion le 30 juin, et ce qui a permis donc de retarder l'avis au fin juillet, quoi, finalement. Cette réunion nous a semblé plutôt une réunion marketing, hein, je le dis franchement. Là, c'est vrai que. Et on est resté dans un flou au niveau des questions, parce qu'on avait quand même une série de questions, et c'est resté assez flou. Donc, on a voulu toujours rester objectif par rapport à notre position d'élu. Hein. C'est-à-dire que donc, ce flou, on voulait justement en savoir plus et avoir plus d'informations. C'est vrai que nous, nos obligations d'élu ont fait qu'on a tardé donc, dans aussi les démarches qu'on voulait entreprendre, sachant qu'il y avait l'été qui était passé. Et on attendait aussi un petit peu un retour aussi des avis qui avaient pu être donnés. Mais ces avis, il fallait aller les chercher au compte-gouttes, quoi. C'est-à-dire qu'on devait aussi consulter les maires pour avoir un peu les avis autour de nous. Et c'est aussi un article dans le journal donc l'Écho de Varès-Grandmines, hein, de M. Lebret, qui a interpellé, surtout au niveau de la commune de Lochenvel, par rapport au dire hein, de M. Lebret, qui faisait un petit peu encore une séance de marketing pour nous, alors que nous, on voulait absolument une séance vraiment d'information, de détails dans les procédures, ce qui est resté toujours flou. Nous, à Lochenvel, on a décidé de faire un courrier, exprimant nos inquiétudes. Parce que nous, en tant qu'élus, aujourd'hui, on est vraiment sur des inquiétudes. Donc on est contre le projet parce qu'on est sur des inquiétudes sur plusieurs domaines. et qu'on ne peut pas accepter, si, à moins qu'ils nous prouvent voilà, qu'il n'y aura zéro impact sur notre cadre de vie. C'est vrai que le collectif, quand il s'est réuni donc, pour la première fois donc, à Plougon-Vert, j'étais à La Réunion donc, en décembre, ça a aussi permis de booster aussi un petit peu les choses. Et aujourd'hui, on a accéléré donc, la procédure. Donc, le courrier était fait hein, déjà, mais c'est vrai que par rapport à la consultation qu'on devait faire de l'ensemble des maires, donc on a fait une rencontre, c'était en janvier, donc exposant justement les inquiétudes qu'on avait émises. Entre autres, bon, l'inquiétude environnementale, hein, c'est donc on est quand même dans notre secteur ici. Hein, je parle de notre secteur parce qu'il faut savoir que le secteur concerné par le Perm de Lokenvel est de 336 km² et que ça se noie quelque part parce que on est quand même plutôt ciblé sur Lokenvel, Belleville. Enfin voilà, il y a une zone un peu plus au niveau de la recherche, je pense, qui est ciblée. Maintenant, on nous l'a clairement dit à la réunion du 30 juin quand on l'a posé cette question. C'est hormis la forêt de Quaternose, on ne sait pas exactement où on va aller. Donc, on sait que dans le secteur, on est concerné. Donc, de là, on s'est réunis. On a donc. Certains maires ont demandé une autre réunion d'information, mais cette fois-ci, on la voulait donc avec une représentation de l'ensemble des conseillers municipaux, donc du Perm de Lokenvel, enfin des communes concernées par le Perm de Lokenvel, et donc de l'Adréal, mais pas uniquement le service après-mine qui était présent lors de la réunion du 30 juin. On souhaitait aussi le service patrimoine naturel. Il y a eu les élections, hein, et évidemment, à ce moment-là, tout est gelé. Pourtant, cette réunion, moi, j'avais essayé de l'organiser le 12 février, mais voilà, le préfet en a voulu autrement. Donc, on a attendu que le préfet nous convoque. On a été convoqué le 9 avril, mais c'était donc l'ensemble, donc l'Adréal était bien présente. Il y avait un représentant du ministère donc de l'économie, hein, de l'industrie, qui était là, donc chargé des mines. Et par contre, c'était l'ensemble des permes de Bretagne qui étaient des communes concernées par les permes de Bretagne qui étaient présentes. Ce qui faisait aussi un petit peu rendait difficile un petit peu le débat sur des questions un peu plus précises. D'informations que nous on voulait nous sur le Perm de Lokenvel entre autres. Donc voilà, là c'est un état des lieux, mais entre temps, donc le 3 avril, on a décidé, enfin pas le 3 avril, mais depuis le début de l'année, on a décidé donc de créer un comité de suivi. Donc qui est composé d'élus et on fait appel à des professionnels pour justement qu'on obtienne des réponses à nos inquiétudes, qu'on a des questions aussi et on voudrait avoir des réponses. Donc le 3 avril on s'est réunis pour la première fois donc on a fait, c'est vrai, un compte rendu. Suite de la réunion, on a pu aussi poser des questions. La difficulté était de poser des questions à cette réunion, puisqu'on était déjà dans une présentation du nouveau code minier. Donc nous, à Lokenvel, il faut savoir, pour le Perm de Lokenvel, il faut bien distinguer deux étapes. Donc il y a la phase d'exploration, qui va être sous l'ancien code minier, et la phase donc d'exploitation qui sera sous le nouveau code minier. Ça nous a aussi un petit peu éclairé quoi justement par rapport à ça, parce que nous ce qu'on a dans nos inquiétudes aussi donc c'est les zones Natura 2000 et la contestation aussi un peu de la notice d'incidence aujourd'hui, qui est d'une part faite par un bureau d'études privé. En lien, bien sûr, hein, Minelis. Et cette étude est très généraliste. Je peux vous donner des exemples. Quand on dit Concernant les zones humides, il n'y a aucune zone répertoriée au niveau national, c'est vrai. Sauf que le problème, c'est qu'on a tout un travail qui a été fait dans notre secteur. Les communes donc ont répertorié les zones humides, mais d'un point de vue local. Donc, en effet, on n'est pas sur les marais, sur les grandes surfaces de zones humides, mais elles sont existantes. Ils avaient oublié aussi des espèces protégées, qui sont donc les chauves-souris, hein, avec des protections très importantes. Et quand ça a été émis, c'est vrai que ça a interrogé un petit peu quand même la plupart sur l'intervention, et entre autres même Varescan-Mine, puisque ils se posaient la question, oui, dans cette zone-là, comment intervenir, quoi. Il faut savoir que donc les forages dans les zones Natura 2000 seront si possible évités, c'est ce qu'ils nous disent. Aujourd'hui, ça nous pose aussi question. Et autrement, ils parlent d'un forage en diagonale en évitant donc la zone, quoi. Aussi, voilà. Donc on est sur la phase d'exploration. Je distingue bien les deux parce qu'il faut savoir que la phase d'exploration aura quand même beaucoup moins d'impact que la phase d'exploitation. Ça, on l'a très bien entendu et on en a conscience. Concernant les mines propres, en effet, je pense qu'il y a une évolution. C'est une évolution dans la pratique. Le problème, c'est qu'on n'a aucun exemple aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Et quand on parle justement des nappes souterraines, des sources qu'on peut avoir, des fissures, hein, des micro-fissures qu'on peut avoir, ils n'en ont pas connaissance, forcément, c'est pas répertorié. Donc la question qu'on se pose, c'est comment ils vont pouvoir gérer, vu le nombre que comporte justement notre sol granitique, le nombre de fissures comme ça qui existent, quoi. Et voilà où on en est, nous, aujourd'hui. Donc ce comité de suivi s'est réuni et on travaille pour en discuter, pour vraiment échanger entre élus. On n'est pas... on reste un maximum objectif aussi sur le projet. Les arguments, mais quand on n'a pas les réponses, évidemment, on ne peut qu'être contre aujourd'hui, puisque y a un minimum de réponses que les élus demandent. Donc, la prochaine réunion, c'est une autre étape encore, hein, où on fait appel à une conseillère juridique actuellement, pour un peu connaître aussi quelles sont aussi nos possibilités de manœuvre, quoi, parce que voilà, on ne sait pas trop, on ne connaît pas non plus, hein, on est vraiment dans l'inconnu, on n'est pas géologue, on n'est pas scientifique, on n'est pas exploitant non plus, quoi. Et ça fait qu'aujourd'hui on souhaite vraiment mettre un petit peu une pression aussi pour faire comprendre que nous, élus locaux, on a aussi le droit de s'exprimer. On a le droit aussi de décider et pas avoir une étiquette automatique de contre. Quand on prône la démocratie participative, on n'y est pas. C'est aujourd'hui, on essaye un petit peu justement. C'est un texte de loi et aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il soit très appliqué en tout cas. Hein, c'est le souci. Et donc c'est pour ça que nous, on veut aussi marquer ça un petit peu pour dire aussi que nous, on connaît notre territoire, on sait les valeurs, on connaît aussi nos richesses et que peut-être c'est pas la volonté de vouloir une économie minière chez nous, mais peut-être autre chose. Entre autres, nous, chez nous, on a quand même le tourisme vert qui se développe et qui est un bel atout pour notre territoire. Et peut-être ça se tourne plus vers une économie touristique. Et ne pas oublier non plus tout l'agriculture aussi du secteur qui peut poser problème. Entre autres, on peut aussi avoir... il y a eu des cas, hein, pour l'ancien projet où, quand le BRGM était intervenu, des sources qui avaient été déviées, les agriculteurs qui se retrouvaient sans eau... Ou alors on part dans un cas extrême, une pollution qui pourrait nuire à l'activité agricole aujourd'hui. Donc voilà pourquoi nous, on a créé ce comité de suivi et on reste vigilant. Voilà, on est vigilant en tant qu'élu. Aujourd'hui, on est contre, mais qui nous donne les raisons pour lesquelles, même économiques, elles ne sont pas avérées. Donc, et pour nous, ce n'est pas très clair, quoi. Là-dessus, donc, l'argumentation, hein, je vous le redis, nous, si aujourd'hui on avait fait donc, ce courrier, c'était surtout pour plusieurs points. Donc, il y avait entre autres l'eau. Donc, on a beaucoup investi, nous, les collectivités, pour justement améliorer la qualité de l'eau, hein, que ce soit les assainissements collectifs, assainissements non collectifs, les travaux faits au niveau des zones Natura 2000 aussi, hein, les répertoires de zones humides. Aujourd'hui, donc, c'est toute l'incertitude hein, des forages et qui, on le sait, on est pratiquement sûr, qui seront en profondeur, étant donné que le BRGM est déjà intervenu et que c'était, il y a eu des tranchées, je pense à l'époque, c'était ça, et puis c'est, on était plus sur de la surface, pas plus de 100 mètres, quoi. Et aujourd'hui, voilà, s'ils veulent rechercher, c'est évident qu'ils vont aller beaucoup plus loin. Ce qui peut justement amener aussi beaucoup plus de dégâts voilà, au niveau pollution. Hein. Les méthodes utilisées aussi, bon, ils le disent bien, même si M. Bonnemaison, dans son article du Télégramme, annonçait que zéro impact environnemental, j'ai du mal à croire qu'ils peuvent dire ça, parce que ce n'est pas le discours qu'ils tiennent aux réunions, forcément. Le risque n'est pas zéro, ça c'est impossible, quoi. Après, il peut être à zéro, peut-être proche de zéro, on n'en sait rien, mais en tout cas, ils ne peuvent pas annoncer que c'est à zéro, ça c'est sûr. Et donc, autrement, par rapport à ces pollutions, justement, puis la méthode utilisée, là, de s'il y a des forages en profondeur, de remplir avec un ciment pour boucher. Alors on se dit, bon voilà, il y a quand même des produits chimiques, le traitement des boues, etc. Ça reste toujours dans le flou, mais c'est vrai que c'est facile voilà, d'utiliser aussi ça à un moment donné quand on est aussi, nous, dans la méconnaissance du sujet et pas des spécialistes, quoi. Donc, sachez qu'il y a quand même des élus qui se creusent beaucoup la tête et qui sont encore indécis sur le projet, mais qui ont énormément cherché et énormément se posent des questions. Voilà. On doit rester, nous, au maximum objectifs sur ce qu'on voit et pas... voilà, parce que nous, l'étiquette, moi, en tout cas, moi, en tant que maire de Lokenvel, aujourd'hui, à la préfecture, j'ai l'étiquette d'être contre par principe, mais je pense que l'argumentation qui avait été donnée dans ce courrier, elle était quand même suffisamment claire pour ne pas l'annoncer comme ça, quoi. Sinon, c'est aussi, comme je vous ai dit, l'environnement, les zones Natura 2000, les zones humides, les espèces protégées, voilà, tout ça, c'est du flou artistique encore. On n'a pas la réponse de leur méthode, puisque de toute façon, la réponse qu'on nous donne, on ne sait pas où on va chercher. En effet, c'est toujours... le flou, il faut savoir que quand même les forages à plus de 1000 mètres sont soumis à une autorisation, enfin, à des autorisations et aussi à une étude aussi d'impact hein, quand même environnemental. Donc, voilà. Après, voilà, nous, élus locaux, on est vigilants sur toutes ces études et on sera de toute façon, si on ne peut pas stopper le projet, on sera dans... on sera vigilant à ça et on a, je vous dis, la conseillère juridique qui nous suit pour justement contrer au plus vite des interventions qui pourraient être polluantes.
Oui, c'est juste pour les 1000 mètres. On en a un peu discuté ce matin. Alors, moi, j'ai bien le souvenir que c'est 100 mètres que Variscan présente, en tout cas pour le permis de Merlière, les documents qui sont consultables sur Internet. Ils mettent moins de 100 mètres, déclaration seulement suffit, plus de 100 mètres, demande d'autorisation. Et puis par la suite, on a discuté un peu avec les Creusois, qui, semble-t-il, disaient qu'un document était sorti en 2014, une circulaire non arrêtée. Et en fait, maintenant, il n'y a plus besoin, c'est plus une obligation.
Si, normalement, c'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. De toute façon, c'est... donc les autorisations, oui, à plus de 1000, plus de 100 mètres, oui, ou 100, voilà, mais quand on arrive à 1000 mètres, voilà, c'est une autorisation et c'est le préfet qui décide. Et sur l'impact, le nouveau code minier aussi va quand même peser un petit peu, même si on est sur sous l'ancien code. On aura quand même une étude d'impact. Après, à nous de signaler qu'il y a de l'abus. Voilà. C'est à nous aussi d'être vigilants par rapport à ça. Quoi.
Vigilant quoi. Particulièrement dur de connaître forage par forage la profondeur exacte, mis à part de spécialistes qui pourront assister à l'événement et attendre pendant un jour, deux jours, trois jours, mais ils pourront forer en toute discrétion où ils voudront, quand ils voudront et à quelle profondeur ils voudront.
Alors, il faut savoir quand même ici, nous, je rappelle, on est dans le monde rural, on est au courant quand quelqu'un est en train de forer.
Oui,
ils ne pourront pas le faire sans qu'on ait l'autorisation en mairie. Hein.
Non, mais le nombre de...
Ah, le nombre, on ne sait pas. Justement, on est que... La profondeur, on ne sait pas.
Voilà.
Et on est au courant. Et c'est là que nous, on est inquiets, parce que voilà, aujourd'hui, tout est flou. C'est un flou artistique. Et on est trop dans... Donc justement, comme vous dites, on ne sait pas, voilà, ils peuvent faire deux, trois. Il faut savoir quand même que s'ils en font un forage, donc ça n'aura pas le même impact que s'il y en a plusieurs sur une zone donnée. Là, ça pourrait poser problème au niveau des nappes souterraines, enfin, voilà, des cours d'eau. Quoi. Et voilà, il y a plusieurs choses comme ça que nous, on essaye de s'informer dans le cadre du comité de suivi, justement, pour avoir un peu des réponses. On n'a pas toutes les réponses non plus, parce que, bien sûr, les professionnels, eux-mêmes, ne les ont pas, quoi. Ils ne peuvent pas savoir, parce qu'ils n'ont pas toutes les données. Mais aujourd'hui, je pense que la démarche a permis, quand même, de mobiliser un petit peu, quand même, les diverses associations, organismes, voilà, et qui vont, justement, aller plus loin dans les analyses, hein, on va refaire, entre autres, c'est vrai qu'au niveau de l'eau, voilà, la Belle Guerre a un œil beaucoup plus voilà, attentif aussi, et voit aussi, voilà, la notice d'incidence Natura 2000 est insuffisante, quoi. Donc nous, aujourd'hui, en tant qu'élus, c'est ce qu'on va contrer, je pense, parce que voilà, on est aussi, on trouve que c'est juste généraliste, quoi.
Il y avait une question là, ensuite une là et ensuite là-bas. Alors au niveau du collectif que vous êtes, combien avez-vous précisément ?
Alors c'est pas un collectif, c'est un comité de suivi.
Oui,
je suis oui parce que c'est pas donc on n'est pas dans le cadre associatif, c'est vraiment des élus qui se regroupent pour travailler voilà sur un projet, pour suivre le projet qui si il a lieu continuera de manière à avoir toujours un œil sur tout ce qui se fait et avoir tous les documents nécessaires. On n'a pas tous les documents encore. Hein.
Alors, au niveau du comité que vous êtes, combien avez-vous aujourd'hui d'élus qui adhèrent à votre position ? Premier point. Deuxième point, est-ce que parmi ces élus, vous pouvez très bien avoir des gens qui ont pratiquement le couteau sous la gorge aujourd'hui d'un point de vue budget ? Et donc, leur positionnement, forcément, prendra en considération cette situation financière. Et troisième point, est-ce que les élus ne font pas peut-être l'objet de pressions plus ou moins discrètes ?
Alors,
je vais laisser François répondre à ça.
Bonjour.
Je peux vous les rappeler, il n'y a pas de problème.
Non, j'aurais répondu aussi. Hein.
Je pense que Virginie a pas mal résumé des infos, enfin le peu d'informations que l'on a. Pour revenir à votre question, donc tous les élus ont le couteau sur la gorge, hein, au niveau financier, puisque les dotations de l'État sont revues à la baisse. Au niveau de la réunion qu'on a eue à Saint-Brieuc, à la préfecture, on a pour la première fois commencé à parler d'argent, de sous. Donc il a été dit que là où il y aurait exploitation, il faut que les collectivités essayent d'en retirer un maximum d'argent. Donc ça a été avancé par les services de l'État. Bon, nous, on n'est pas... Enfin, en ce qui nous concerne, toujours, on n'est pas rentré dans ce jeu-là, mais je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des collectivités qui vont suivre à ce niveau-là. On a aussi, pour la première fois, à Saint-Brieuc, commencé à parler d'emploi lié à l'exploitation. Donc on est passé déjà à la deuxième phase. La prospection, pour eux, c'est réglé, peut-être. Pour nous, ça ne l'est pas encore. Donc, on a parlé d'emploi. Donc, on a parlé de concernant une exploitation de 200 à 500 emplois liés à une exploitation. Par contre, on ne sait pas qui va travailler sur ces différents chantiers. Donc, Madame la députée Annie Wérou, qui était présente, a demandé quels seraient les critères pour travailler pour que éventuellement on puisse, au niveau local, former des personnes qui pourraient travailler sur ces différents sites. Pourquoi pas, s'il y a à le faire, plutôt que d'avoir une main-d'œuvre étrangère sous-payée qui viendrait sur le secteur. Parce que s'il y a une main-d'œuvre étrangère sous-payée, ça veut dire plus de profit pour les entreprises qui vont exploiter. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas eu beaucoup de réponses non plus de la part de la préfecture. Réunion qui, c'est mon avis, est une réunion où le préfet nous a pris pour, je ne vais pas dire des demeurés, mais pour des campagnards, visiblement, en nous snobant comme il sait le faire, visiblement. Donc, je pense aussi que c'est indigne de la part d'un représentant de l'État de recevoir les élus des communes de cette façon-là.
Alors, je m'excuse, vous n'avez pas répondu à ma première question.
Donc, le nombre...
Oui. Autres communes.
Les autres communes, donc jusqu'à présent, on se retrouve sur le nombre. Une dizaine de communes a participé à notre comité de suivi. Bon, il y a aussi des communes qui n'ont pas répondu... qui n'ont pas donné d'avis, donc qui ne dit mot qu'on sent, je pense. Bon, il y a aussi le fait qu'on a été interrogé lorsqu'on venait d'être élu. Donc, des nouvelles équipes municipales se mettaient en place. Ils ont profité de ce créneau pour nous imposer une réponse rapide. Bon, c'était les maires uniquement qui étaient interrogés, hein, donc ils n'étaient pas tenus de demander l'avis des conseils. Bon, à Belle-Île, je n'ai pas eu de réunion du conseil municipal dans ce créneau, donc j'ai donné une réponse en mon nom et une réponse négative, faute d'information aux questions qu'on avait posées à la sous-préfecture et où on n'a eu aucune réponse. C'est pas un petit peu, c'est on n'a eu aucune réponse.
Oui, alors je vais essayer de faire rapide, mais je pense que votre situation elle est très inconfortable. Et vous, c'est comme si, moi ce que j'entends, hein, c'est comme si vous vous mettiez dans le cas de figure où vous étiez obligé d'accepter, mais vous savez bien, enfin, vous sentez vraiment quelque part que c'est pas bon. Et là, moi je pense déjà que de deux choses. L'autorisation d'exploration, on sait pertinemment, vous les avez questionnés apparemment là-dessus, ils vous disent qu'ils ne savent pas encore où ils vont forer. Moi, sincèrement, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils vont faire. C'est se leurrer complètement que d'imaginer qu'ils ne savent pas encore quel trou ils vont faire.
Je pense que la
délimitation du territoire est très précise. Ils arrivent à un endroit où on nous a annoncé ce matin, moi je l'apprends, que c'est le château d'eau de la Bretagne. Enfin, c'est quand même quelque chose d'hyper sérieux. Donc, je pense que là, il ne faut pas se mettre dans la situation où on va essayer de le faire, mais le moins pire possible. Parce que là, on a déjà mis la main dedans. Voilà. Par rapport à votre position d'élu, je pense qu'il faut que vous vous sentiez fort de tous les gens qu'il y a derrière vous pour vous opposer à cette exploitation. Mmh. Vous n'êtes pas tout seul, donc il faut que vous en ayez toujours bien conscience de ça, que vous êtes vraiment, vous allez être entouré par des gens qui ne veulent pas de ces exploitations. Et la troisième chose, par rapport à la façon de procéder et du gouvernement et donc des fonds d'investissement, il ne faut jamais oublier ça non plus, qui sont derrière, on n'est pas là pour se faire plaisir et dire qu'on va faire le bien de l'humanité parce qu'on aura extrait des métaux précieux. On est là pour servir des fonds d'investissement. Donc il ne faut jamais perdre ça de vue. Le forage total de vos terres, ça va être juste faire des trous pour servir de l'argent sur un fonds d'investissement, en l'occurrence australien. Moi, je ne vois que ça. Et le reste, c'est du pipeau. Pour moi, le reste, c'est vraiment du pipeau.
Tout ce que vous dites, madame, oui, c'est vrai que on est, ça va répondre un peu à la question de monsieur, donc par rapport à des élus qui ont, on va dire, sont un peu abstenus aussi de la décision pour avoir plus d'informations, des informations qu'on ne donne pas forcément, donc voilà, il n'y a toujours pas d'avis donné forcément. Mais par rapport à la situation aussi, qu'il faut savoir que c'est la préfecture qui prend les décisions. Et qu'aujourd'hui, oui, on peut avoir une pression, oui, en effet. Sauf que, voilà, je pense que nous, élus locaux, on peut le dénoncer aussi. C'est aussi notre travail en tant qu'élus aussi, en dehors du projet minier, de pouvoir aussi le dire que, voilà, comme a dit François, cette réunion, on ne nous a pas considérés en tant qu'élus, parce que, voilà, ça a été un comportement incorrect. Et aujourd'hui, ce comportement-là nous pose question justement sur l'avenir. Est-ce que c'était de l'intimidation? On ne sait pas. Ce sera quelque chose qui sera sûrement avancé, parce que je pense qu'il y a une réunion sur la sécurité civile bientôt. Et je pense que, voilà, moi, je vais faire en sorte d'être présent pour ne pas lui laisser non plus ce paramètre-là, non plus quelque part, la préfecture a mis suffisamment de pression et que nous, on se positionne pas. Et je pense que on est, nous, élus locaux, au moins une partie du secteur, à vouloir se battre contre ça. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande aussi les mutualisations, les regroupements, on nous demande beaucoup de choses. Et tout en oubliant la consultation, sur les prises de décision, on nous demande... On nous oblige, on nous questionne pas. Donc, pourtant, pour tout projet, un diagnostic est important sur un territoire. Et voilà, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et puis, c'est un petit peu guidé comme ça. Donc oui, en effet, on peut avoir des pressions. Mais aujourd'hui, on a aussi, nous, on est un pays de droit aussi, où on a le droit aussi de dénoncer ces pressions. Et les arguments, voilà, c'est la raison pour laquelle on aura une conseillère juridique de manière aussi à nous protéger. Et on est protégé aussi autrement, hein. On a des aides juridiques si on le souhaite, parce que oui, en tant qu'élu, quand on va se battre contre ce genre de projet plutôt, eh ben oui, on peut être mis à mal, oui, je pense.
Moi déjà, je trouve que vous êtes vraiment, vraiment courageux, parce que en fait, je sais que c'est pas facile la vie d'un maire par rapport face à un préfet. Mmh. On peut, c'est des pressions, hein, faut le reconnaître. Je pense que les gens doivent aussi prendre conscience de ça. Mmh. Donc je trouve que franchement, déjà, vous êtes très 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 courageux de pouvoir vous opposer à ce genre de projet-là. L'autre chose, c'est juste l'autre chose, en fait, où je me questionne, c'est... on a entendu ce matin, Gilles Huette expliquer que les élus de Lannion, en fait, reconnaissent quand même qu'ils se sont fait rouler. Par le gouvernement. J'entends les gens de la Creuse ce matin nous dire qu'en fait la préfecture met en place des comités de suivi ou des comités de suivi. Et apparemment, ça sert à rien. Il n'y a rien qui. Ça ne sert exactement. Enfin, extrêmement. Enfin, alors, je me questionne quoi sur les types d'actions ou les initiatives. Vous pouvez faire en tant qu'élu pour éviter ce genre de choses, de se faire rouler encore. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme précaution? Comment on peut questionner les formes de lutte
Par rapport au comité de suivi, donc en effet, ça demande aussi qu'il soit bien monté au départ. Voilà, quel est l'intérêt de ce comité de suivi? Nous, le premier intérêt, c'est déjà de pouvoir rencontrer des professionnels de manière à pouvoir questionner. Faut savoir que donc on a, comme c'est le flou, ben on veut avoir des réponses sur certains sujets. De là, à nous d'estimer, voilà, est-ce que ça répond à nos questions, mais si on reste toujours dans un flou, ben on se dit qu'il y a des risques derrière. À ce moment-là, oui, on a la conseillère juridique. On a déjà fait appel à elle et aujourd'hui, on travaille et elle nous donne des billes. Et que ce soit au niveau national, que le niveau, il ne faut pas oublier, il y a un niveau européen aussi. Hein. Donc nous, notre travail en tant qu'élus et notre devoir, je pense, c'est même sûr, c'est que s'il y a ces risques, ces doutes, ces incertitudes, on ne peut pas laisser faire. Voilà. Donc, ce sera des procédures, hein, donc d'abord administratives, mais c'est un dossier à monter. Il faut savoir que là, il est au ministère, le dossier, et donc du PERM hein, en validation. Et la réponse serait en septembre minimum, voire novembre. Donc on penche plus novembre parce que voilà, la rentrée, etc. C'est pas... Voilà, donc c'est un temps très court pour lancer quelque chose. Donc on en est là. Je vous dis, c'est vraiment le lien entre les informations qu'on va avoir et nous, ce qu'on va estimer entre élus en décision. On va dire, voilà, peut-être il y aura des votes. Hein, voilà, vous estimez que cette situation-là vous semble correcte ou est-ce qu'il y a encore pour vous des doutes ou des... Voilà, et on va tout estimer comme ça sur des thèmes bien précis, comme je vous ai cité, l'environnement, l'eau, l'agriculture, l'économie emploi aussi qui était avancée, comme disait François, sur l'emploi, mais en même temps, on n'a pas deux fois la même version entre la première réunion et la deuxième réunion.
On lui a posé la question aussi de savoir quel serait l'impact sur les nappes phréatiques. Et est-ce qu'il y en aurait ? Il nous a dit que oui, il y en aurait, parce que s'il nous disait non, c'est qu'il était en train de mentir. Donc c'est qu'il y a vraiment des impacts dans ce qui va être fait au niveau du sol. Bon, ce qu'il y a aussi, et c'est là que c'est grave, on arrive éventuellement visuellement à voir ce qui se passe au niveau du sol, mais ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe en dessous, on ne le saura ben, je ne dirais pas jamais, parce qu'on aura les conséquences derrière. Ce seront les enfants, les petits-enfants qui en subiront les conséquences après, dans quelques années. Quoi. Voilà.
Oui, bon, ce n'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. J'aurais bien voulu que la polémique entre exploration et exploitation soit close une fois pour toutes, parce que ce matin, on nous a bien expliqué comment l'exploration débouchait automatiquement sur l'exploitation. Mais Virginie, vous revenez sur cette histoire de l'exploration, ça va être anodin. Pour moi, c'est du pur endormissement qu'on vous a fait. Et à mon avis, j'irai même plus loin, je pense que c'est de l'endormissement dans le sens où l'exploration a déjà eu lieu. Il y a déjà eu énormément de carottage par Elf Aquitaine. Il y a eu aussi le BRGM il y a quelques années. Hein. Ils étaient là à Belle-Île. Et donc, je pense qu'il faut clore ce débat. L'exploration, c'est juste investir un petit peu de fric pour donner le droit à l'exploitation.
Juste pour dire, justement, il faut bien que vous compreniez qu'on doit être objectif. Voilà. On sait très bien que l'exploration aura un impact, mais il sera moindre que celui de l'exploitation. Attendez, les forages, il faut être aussi quand même objectif dans ce qu'on dit, dans le sens où on a affaire à des... Là, l'inquiétude, c'est sur les forages de plus de 1000 mètres aujourd'hui, et donc ça peut poser problème donc, au niveau de la pollution des eaux, puisque comme j'expliquais, les nappes, mais et aussi au niveau des zones Natura 2000. Moi, c'est ça que je veux aussi mettre en avant. C'est la raison pour laquelle on ne souhaite même pas de l'exploration, puisqu'on sait que d'avance, s'ils trouvent quelque chose, il y aura exploitation. Et là, l'exploitation, on n'en veut pas parce qu'il y a trop de risques. Voilà. Mais il faut aussi être lucide, enfin, comment dire, objectif. Moi, je dis vraiment objectif dans le sens où il y a des risques, mais ils sont moindres déjà que l'exploitation en elle-même. Il faut savoir qu'ils vont forer à plusieurs endroits, certes, mais ils vont être beaucoup moins importants que quand il y aura une exploitation. Là, on n'est plus dans le même contexte.
Ce n'est pas à ce niveau-là que je...
Voilà.
Ma réflexion, ce n'est pas à ce niveau-là. D'accord. J'arrête.
Je vous renvoie sur le site de l'industrie minière, qui s'appelle worldgov.fr. Je vous invite à consulter ce site. J'ai griffonné un tableau sur l'emploi. Il publie des chiffres sur l'emploi. Donc ces chiffres de l'emploi sont tout à fait incompréhensibles. Par tonne d'or, ça peut aller en nombre d'employés. Ça concerne une quinzaine de compagnies minières parmi les plus importantes du monde qui se sont regroupées dans une association en souci de faire des mines responsables. Ça va de, par tonne d'or produite, pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, des pays comparables aux nôtres. La Nouvelle-Zélande produit 3 tonnes de 4 d'or en 2013. L'Australie, 115 tonnes en 2013. La Finlande, 4 tonnes 6. D'accord, c'est des pays, je n'ai pas choisi les pays d'Afrique. En Finlande,
ça fait à peu près 150 employés par tonne d'or produit. Aux États-Unis, ça fait 97 employés par tonne d'or produit. En Nouvelle-Zélande, ça fait 92 par tonne d'or produit. Donc on est quand même assez loin des chiffres qui vous ont été présentés à la réunion avec le représentant du ministre, de ce que j'ai entendu. D'autre part, si vous parlez de la phase d'exploration, et qu'il me semble avoir compris que vous étiez contre l'exploitation, ça veut dire que le problème de l'emploi n'existe même pas en tant qu'argument, puisque sur l'exploration, il n'y aura pas d'emploi créé. Nous, dans la phase d'exploration, les géologues, là, ils sont 3, 4, 5, je ne sais pas, Pierre, combien. On peut aller leur serrer la patte avec leur 4x4, ils se baladent et c'est tout. Hein.
En ce qui concerne donc la phase exploration, puisqu'on est là-dessus, comme disait Michel tout à l'heure, il y a des zones et des gisements bien identifiés suite au travail fait par le BRGM. Donc, Michel, les gens étaient déjà dans le premier comité qui s'était monté lorsque Elf Aquitaine avait voulu se lancer là-dedans. À l'époque, il n'avait pas donné de suite parce que le prix du minerai n'était sans doute pas assez cher et le coût d'exploitation était trop élevé. Il y a 30 ans, on faisait moins appel à la main-d'œuvre étrangère. Il se trouve qu'actuellement, la tonne de minerai est sans doute mieux rémunérée et le personnel sans doute un peu moins aussi. Donc, ils sont prêts à y aller, quoi. Donc, Belle-Île est au premier rang, hein, parce qu'il y a un site de bien identifié où il y a du tungstène. C'est en lisière de forêt. Il se trouve qu'à ce niveau-là, actuellement, il y a un jeune couple qui vient d'acheter le camping et qui souhaite l'exploiter. Donc, on part sur de mauvaises bases pour donner un accord, toujours en ce qui me concerne. Et c'est pour ça que je suis contre aussi et que je fais partie du comité de suivi avec Virginie. Donc on peut nous faire confiance, on est très vigilants. Et je ne voudrais pas non plus qu'on nous mette une étiquette sur le dos parce que certains élus, je ne dirais pas qu'ils sont pour, ils ne disent rien, mais on n'est pas tous sur la même longueur d'onde.
Là, il y avait, non. Il y avait là.
Je vais faire un peu la suite. Le Roland, je suis aussi de la Creuse. Donc nous, on est sur 7 communes. On aimerait bien qu'il y ait des élus qui passent comme vous, qui interviennent dans une réunion publique. Il se trouve que sur les 7, il n'y en a aucun qui a eu le courage jamais d'intervenir, quelle que soit sa position, ni pour dire qu'il est objectif, ni rien. Il y a deux conseils municipaux qui ont signé des arrêtés comme quoi ils étaient contre, moralement, le projet d'exploration. Et il y en a d'autres qui nous ont dit verbalement, en leur titre personnel, qu'ils étaient contre, mais qui ne se sont jamais manifestés. Donc nous, ce qu'on attendrait des élus, pour te dire un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi, les élus, signer des papiers, on sait pertinemment que ça ne sert à rien, parce qu'on passera sur vous, on passera par les propriétaires terriens qui seront d'accord, donc on sautera l'étape élu dans ce cas-là. Même s'il n'est pas d'accord, si c'est vraiment sur Belle-Île-en-Terre que c'est intéressant, le maire de Belle-Île-en-Terre, on sautera par-dessus. Et donc, à mon avis, vous, ce que vous pouvez faire, si vous êtes un peu soudés, ce que nous, on attendrait, c'est une position dans les médias. Parce que là, tout le monde voit, ah, il y a quand même des maires qui sont contre, et qu'ose le dire. Dans un papier dans le journal, avec des maires qui se prononcent bien. Sachant que nous, il y a le conseil général qui a pris un papier qui est contre les mines. Alors, mais ils n'ont jamais eu le courage de passer dans la presse, donc c'est comme si on ne savait pas leur position en fait. Ils sont contre, c'est passé en catimini.
Mais en ce qui concerne certains élus, bon, ils attendent pour l'instant, puisque il n'y a pas eu de permis.
Je finis, j'avais pas fini. Okay. Et, ouais, je vais vous donner un argument aussi, comme vous disiez, moi je suis objectif, je ne suis pas contre par principe. Moi je suis contre par principe. Je vais vous donner un argument. J'habite une zone rurale. J'ai pas besoin d'un bon Dieu qui arrive, qui me crée des emplois. Nous, on sait le faire nous-mêmes. On n'est pas si con que ça. On peut créer des associations, des activités sur notre territoire. On n'a pas besoin du bon Dieu. Si vous en avez besoin, ben priez. Il y a beaucoup de droits en plus, partout dans les campagnes.
Je retiens et je vais peut-être appeler à vous pour les emplois. On se verra tout à l'heure avant de partir.
Bah, j'ai une société de serial killer, d'ailleurs.
Bien entendu, on parlait.
Donc, là-bas, dans le fond, c'est bon. Je peux poser ta question.
Juste une petite intervention. Alors, c'est vrai que... Attends, je vais dire. Je vais le dire, je suis maire de Grasse. Donc je ne me suis pas encore mis dans le collectif, c'est vrai. On vient souvent aux réunions, on écoute, on entend. Et on cherchait justement à continuer. Je sais que Patrick Crassin vous a rencontré. On est présent. C'est vrai qu'on ne s'est pas déterminé, même au sein du conseil municipal. On a donné des informations. On continue à ça. On voulait avoir vraiment l'information. On ne veut pas non plus être en dehors. Mais on veut être sûr de ne pas tromper. J'entends bien. Et j'ai entendu l'exposé qu'a fait monsieur. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et ce que vous dites, c'est vrai que je ne vous avais pas rencontré encore. Et là, je vous écoute. On a besoin de cette information. On est peut-être un petit peu loin. Grasse se dit, tiens, on est à Guingamp, on ne viendra pas nous toucher, nous. Peut-être que Ploumagoire, c'est pareil, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'est pas éloigné par 20, 30 km, mais on a besoin de toutes ces informations. Et je vous écoute, et donc, sachez qu'on vient vraiment dans ces conférences pour vous écouter et comprendre exactement.
On ne va pas non plus forcément juger l'attitude des autres maires, mais il est clair que si sur les 25 communes, il y a 25 maires qui sont contre, ça sera beaucoup mieux que si on est 5, 6, 7 contre.
Et je voudrais juste dire, juste par rapport à l'information... justement, on recherche cette information au maximum, mais je rappelle quand même que eux-mêmes le disent bien, comme a dit François, le risque zéro n'existe pas. Donc là-dessus, nous, c'est vraiment là-dessus que, voilà, quand je parle d'objectivité, on est là aussi. C'est-à-dire que je dis que l'exploration, l'impact est moindre qu'une exploitation, mais il peut en avoir un aussi. À partir du moment où il y a ce risque, on se positionne, nous aussi, à un moment donné, parce qu'on ne peut pas laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, comme dit François, un territoire pollué. Surtout tout l'investissement qui a été fait par les collectivités, je dis les dernières années, pour développer vraiment la qualité de l'eau, pour tout ce qui est aussi protéger les espaces. À un moment donné... on fait un choix, oui, on fait un choix à un moment donné. Et là, aujourd'hui, nous, on se positionne comme ça, dans ce comité de suivi, pour faire ce choix-là aussi. C'est-à-dire que déjà, dès la première réunion, on a une conseillère juridique qu'on consulte. On n'attend pas non plus, quoi, parce qu'on ne va pas se noyer dans des discussions, qui sait qui a, quel argument, etc. Il faut que les choses soient posées. Donc moi, je vous invite vraiment vivement à venir... à ces réunions, quoi, pour qu'on échange justement, et ça permet aussi nous de nous conforter aussi dans notre démarche, parce que je vous dis, j'ai essuyé des critiques contre par principe, les réflexions de Varescan-Mine sur contre par principe, j'étais à deux doigts d'aller plus loin. À chaque fois, je me suis retenue, je me dis, ça va faire polémique, on va pas, voilà, et ça va donner, comment dire, la nourriture au... Voilà, bon, c'est ça, quoi. À un moment donné, il faut être aussi... notre position, elle est très... Alors, des fois, je comprends la population qui voudrait nous dire « Oui, mais allez-y, plus... » Mais non, on a une position d'élu. Et élu, on doit représenter aussi l'ensemble de la population. Sachez qu'il y a des gens qui sont pour. Alors, voilà, nous aussi, on se positionne. Et c'est quand je parle d'objectivité, c'est-à-dire qu'on doit vraiment poser le pour et le contre et avoir l'argumentation derrière pour pouvoir expliquer aux gens notre prise de décision, quoi. Donc voilà.
Moi, je voulais rajouter quand même, avant qu'il y ait d'autres questions. Donc, en tant qu'élu, on nous demande de faire respecter les directives. Donc, en tant que maire, vous devez avoir ça aussi au niveau de Grasse, comme dans toutes les communes. Donc, en ce qui concerne le camping dont je vous ai parlé au niveau de Lochenwald, il y a un gros souci au niveau de l'assainissement non collectif qui serait à mettre en place. C'est très compliqué. On aura du mal à avoir les autorisations. Alors, je ne vois pas comment l'État va débarquer là, commencer à explorer puis à exploiter, on rebouche les trous et on s'en va en laissant ça comme ça. Donc, quelque part, je ne souhaite pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Si moi, je dois faire appliquer la loi, ben, eux doivent la respecter aussi.
Et par rapport au transport, comme
vous disiez aussi. On prend une question là. Une question là, et je vous propose qu'on essaye de clore ensuite. Je pense qu'il y a aussi peut-être des agriculteurs dans la salle qui souhaiteraient... exposer leur avis ou émettre des questions, des interrogations.
Oui, je voulais signaler juste une ambiguïté par rapport à l'expression comité de suivi, dans le sens que les seuls documents qu'on trouve sur Internet par rapport au permis breton aujourd'hui sont sur Merléac. Et ça s'appelle ces trois documents qui réunissent des maires, Évaristan et le préfet. Et ça s'appelle aussi comité de suivi. En fait, comité d'information et de suivi. Et ce matin, moi, j'ai fait la confusion avec ce que nous disait le président de la vallée du Léguerre. Parce qu'en fait, il y a aussi des maires, c'est aussi un comité de suivi, mais c'est après, je crois, l'accord du permis, quoi. Donc, je voulais juste signaler ça et aussi signaler que... éventuellement, ou alors, je veux dire clairement, une fois pour tout, que c'est pas la même chose.
En ce qui concerne Merléac, le permis de prospecter est donné. Donc, il commence les survols là, actuellement en hélico pour voir commencer les différents forages pour prospecter.
Justement, la question qui suit,
c'est Merléac.
On
est venu de la région de Merléac. Et moi, je voulais faire référence pour ce fameux permis de Merléac. Où le Conseil régional a émis un vœu le 27 juin 2014, que l'on peut trouver sur leur site internet. Le titre du vœu est « Pour une transparence et un vrai débat démocratique en matière de recherche minière en Bretagne ». Je signale que ce vœu a été adopté à l'unanimité. C'est vrai qu'il est mis, il concerne le projet de Merléac, qui n'a eu aucun débat démocratique. Moi, ça fait 3 semaines que je sais qu'on est dans la zone concernée, à 2 km, voire peut-être complètement dedans. Jusque-là, on ne le savait pas. Je me dis rapidement les quelques points qui ont été soulevés par le Conseil régional. Notre interrogation porte sur la sincérité de la nature des demandes donc de Variscan, compte tenu de l'ampleur des surfaces concernées et des sommes engagées dans l'exploration sans garantie de résultat, de la société ayant déposé ce permis, connue comme cherchant une rentabilité à court terme, et ceci d'autant plus qu'elle n'est pas spécialisée dans l'approvisionnement en France en métaux. Le Conseil régional de Bretagne demande aux instances compétentes de faire preuve de vigilance sur la nature des demandes d'exploitation et d'exploration de substances polymétalliques, ainsi que sur la gestion des contraintes et retombées environnementales, demande à ces mêmes instances de vérifier le respect des objectifs affichés afin que les sondages ne soient pas détournés au profit de toute autre exploration non déclarée, exige un vrai débat démocratique ainsi qu'une transparence totale en cas de demande de recherche minière. Je rappelle, ce vœu a été adopté à l'unanimité le 27 juin 2014.
On voit l'effet qu'il a eu.
Il a le mérite d'être là quand même.
Il n'en demeure pas moins que ça peut donner, je vois le questionnement des élus là, et puis des nôtres sur le secteur Merléac. Je vous assure que nous, le questionnement des élus, on ne le connaît pas. Mais le questionnement des élus ici, ils peuvent aussi peut-être s'appuyer sur des votes, des choses qui ont été votées au niveau du Conseil régional, et peut-être dans d'autres instances. Le Conseil régional, finalement, c'est quand même une structure qui représente quelque chose. On nous demande bien d'aller voter quand il y a des élections régionales. Non. Alors, eh ben, voilà, utilisons aussi, même si c'est pas pour faire valoir en justice un jour, mais moralement, ça a une valeur. Quand on a mené le combat sur les OGM, on s'est beaucoup appuyé sur les positions du Conseil régional.
Alors, votre réponse, je réponds, notre comité de suivi, les conseillers régionaux, les conseillers donc départementaux sont invités au comité de suivi. On a eu des réponses, négatives, enfin voilà, des personnes qui ne pouvaient pas se présenter, voilà, ce qui ne veut pas dire on attend le deuxième, on est qu'au deuxième. Et donc voilà, mais on essaye aussi d'élargir. Il faut savoir qu'on a eu quand même au niveau du conseil régional des réponses donc des conseillers régionaux donc au niveau donc de Europe Écologie hein, donc voilà on a eu quelques réponses comme ça où on nous a donné donc par exemple les vœux qui ont été faits au niveau du conseil régional d'Europe Écologie justement qui donnaient leur inquiétude sur ces projets. Sur leur site, ils ont aussi, ils ont mis hein, sur leur site justement leur inquiétude. Hein, ils ont exprimé aussi et fait des demandes. Attention, des demandes de transparence, des demandes aussi, voilà. Et c'est notre position d'élu, quoi. Où on, je pense que cette pression qui sera mise, plus on sera à mettre une pression, parce qu'on ne peut pas dire on est contre. Ben, voilà, on est contre parce qu'il y a trop d'inquiétude. Je reviens là-dessus encore, mais on ne peut pas aller automatiquement dans la critique, etc., il faut que ce soit vraiment fondé sur des choses. Donc qu'on ait des solutions derrière, qu'on demande des choses. Par exemple, au niveau du secteur, comme j'ai dit, le tourisme, pourquoi une économie minière et pourquoi on n'aurait pas le choix de faire une économie touristique verte. Voilà, voilà, on est dans des solutions. Voilà, qu'est-ce que nous on propose ? Parce que sinon, c'est l'étiquette automatique de l'élu qui est contre par principe. Et ça, on va le défendre au maximum et on aura les arguments pour ça. Il faut qu'on se rencontre, qu'on pose les choses et qu'on sache exactement ce qu'on va avancer. Il ne faut pas partir comme ça dans un combat, même médiatique. Il faut absolument qu'on ait un maximum d'élus, qu'ils soient départementaux, régionaux, même. Je dirais nationaux, voilà, la députée Annie Louérou, on peut aussi voilà, en discuter. On peut aussi aller au niveau européen. Donc aujourd'hui, voilà, c'est aussi mobiliser un maximum d'élus à différentes strates qui permettrait aussi de donner du poids un petit peu et de dire, bah oui, on est là et vous ne ferez pas n'importe quoi. Quoi. Voilà.
Je voudrais simplement rappeler à tous les gens qui sont là, c'est que récemment, j'ai fait un reportage sur l'Agnon. Contre l'extraction de sable dans la baie de l'Agnon. Il y avait 6000 manifestants, c'est ce qu'on a à peu près chiffré, et puis on a rencontré des élus, dont Madame Hérel, d'autres maires, je crois, de Paimpol aussi, tout le monde était contre l'extraction du sable. Eh bien, M. Macron s'est assis là-dessus, le sable sera extrait. On nous a dit en moindre quantité, mais qui aura mesuré les milliers de mètres cubes de sable qu'on va retirer ? Et aujourd'hui, quand je lis le Trégor, je constate que des élus qui étaient là présents ont un petit peu retourné leur veste. Alors je voudrais conclure, est-ce que vous, finalement, vous défendez un point de vue, hein, mais est-ce que finalement M. Macron ne va pas venir derrière, s'asseoir sur tout ce que vous aurez dit, et puis on passera outre ?
Bah, d'où la conseillère juridique. Hein, aujourd'hui, on n'attaque pas uniquement sur à dire qu'on est contre le projet. C'est aujourd'hui, je vous dis, argumenter aussi, mais avoir aussi un poids juridique et administratif, parce que il y a possible. Bah, là, actuellement, à l'état des choses, on peut contester quand même certains documents, voire certains documents qu'on n'a pas eus d'ailleurs. Donc voilà, ça fait que aujourd'hui, voilà, on a une pression et pour ça, il faut absolument qu'on travaille avec la conseillère juridique. Et je pense que ça, c'est notre atout, c'est ce qui fera aussi qu'on aura un peu plus de poids. Alors,
je pense que on va prendre une dernière question. Tu voulais on en prend deux. Attends, mais s'il te plaît, je te donne la parole. Donc on va prendre Lamine, là, qui veut poser une question. On prend Gaël et on prend Marc derrière. Et je vous propose qu'on essaye de clore ensuite, parce que on ne va pas non plus abuser de votre temps, même peut-être que vous en avez beaucoup, mais on avait l'idée de conclure dans les 17h.
On peut peut-être prolonger.
On peut prolonger, mais... Alors, pour remplacer, on l'a touché. Non, on y va à la mine, alors. Alors, moi, c'est plus... En fait, ce matin, ils ont beaucoup... Ce matin, les gens de la Creuse aussi nous ont dit quelque chose d'assez intéressant. Ils nous ont parlé de la nécessité de faire un état zéro. En fait, et je pense qu'au niveau, nous, du collectif, on avait pensé que... Il fallait, enfin, ça pouvait vite, enfin, on n'avait pas les moyens, nous, de le faire nous-mêmes. Il fallait s'appuyer sur les associations environnementales locales, parce qu'ils sont sur le terrain pour le faire. Alors, ça a été très difficile d'amener les associations environnementales locales, parce qu'on parle des pressions des élus, il y a aussi des pressions des associations environnementales qui dépendent de subventions, voilà. Donc, ça aussi, c'est un gros problème. Moi, je voulais le soulever, et c'est aussi, en même temps... voilà, pour jeter entre vos actions en tant qu'élu qui reste dans un cadre purement légal, légaliste, ou dans un cadre, en tout cas, que vous définissez, par rapport au collectif, il va, pour moi, il va falloir un moment où, enfin, qu'on essaie de mutualiser nos luttes, qu'on essaie de lutter, on sait qu'on lutte tous dans la même direction, mais qu'on essaie, en fait, de s'économiser. Il y a des choses, pour moi, comme par exemple ces études d'impact. C'est, par exemple, c'est le genre de choses que les élus pourraient faire avec appuyer les associations environnementales, parce qu'ils vous écoutent aussi, parce que souvent, leur financement dépend des collectivités, et c'est important, et que ce ne soit pas juste une cuisine que vous faites tout seul, vous prenez le lit dessus, mais que ce soit concerté, qu'il y ait le collectif et puis la structure des élus, le comité de suivi. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me paraît essentiel, et j'aimerais vraiment savoir votre position par rapport à cette lutte qu'on est en train de mener tous ensemble, les ponts qu'on peut jeter entre nous.
Donc, en ce qui concerne faire un état des lieux, donc au niveau de Belle-Île, il y a un état des lieux qui a été fait. Les zones humides, dans le cadre du plan local d'urbanisme, ont toutes été identifiées. Taillis, bocage, tout est identifié. La trame bleue et verte dont on parle, c'est fait aussi. Donc, à ce niveau-là, on a un état du terrain qui est bien identifié. En ce qui concerne donc les rapports que l'on peut avoir, je rencontre Jean régulièrement quand il passe à Belle-Île, il s'arrête, il vient me voir à la mairie, on discute de où chacun en est au niveau des actions menées d'un côté et de l'autre, et on échange de cette façon-là sans qu'il y ait de soucis particuliers. Donc Jean, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Ah non, mais
je réponds à l'administré. Je pense que la question de la mine, c'était comment des passerelles pourraient se mettre en place entre le collectif d'Ouardidoul, qui a démontré aujourd'hui sa capacité à informer, à aussi amener l'information, à montrer qu'on n'était pas des dogmatiques comme la presse a voulu le faire croire, mais des citoyens concernés sont capables d'amener de l'information de qualité. Donc il faut absolument qu'on arrive à avoir des passerelles, à travailler ensemble, et le collectif travaille avec les autres.
En plus factuel, comme eux, ils ont parlé, on parle d'état des lieux, les gens de la Creuse parlaient de quelque chose qui était beaucoup plus systématique, ils parlaient par exemple de faire des relevés dans les rivières, de faire des relevés de conductivité, qui est un indicateur pour dire, mesurer la présence de métaux dans l'eau, par exemple, ce genre de choses-là. Bon, Frédéric Gazan nous a dit qu'il ne le faisait pas, mais il y aurait possibilité d'avoir de l'argent pour le faire. Et c'est des choses pratiques comme ça qu'en fait, il faut, je pense, qu'on puisse se rencontrer et discuter, que ce ne soit pas entre un administré juste et puis que ce soit vraiment... Bon, je pense que j'allais presque vous demander comment vous vous sentez quand on vous traite d'anti-tout. C'est bienvenue au club, j'ai envie de dire.
Alors, voilà. Ah, mais carrément, de toute façon, moi j'ai l'étiquette, c'est bon. Non, je voulais juste répondre à ça, c'est important, parce que, justement... je voudrais vraiment que vous compreniez bien notre position d'élu et comment on est attaqué lorsqu'on s'affiche. Là, aujourd'hui, on s'est affiché. Je pense qu'on va avoir un retour. Sauf que l'argumentation qu'on va avoir, c'est qu'aujourd'hui, nous, notre position d'élu, on est là pour informer la population. On nous a invités pour informer la population du secteur où je vois qu'il y a du monde aussi... de la Bretagne, et ben à ce moment-là, oui, nous, c'est notre rôle. ça fait partie de nos fonctions aussi, d'informer. Informer par rapport, nous, notre positionnement. Et voilà, aujourd'hui, on peut le faire. Alors, pour ce qui est des passerelles qui pourraient se faire entre le collectif et les élus, il faut savoir que nous, par rapport à cette situation-là, où on est discrédité automatiquement, je vous le dis, hein, le préfet, je n'ai posé qu'une question, on va dire, ça devait être au bout d'une heure de réunion quand même, il m'attendait, donc je pense que j'ai eu une attaque directe en me disant « la maire de Lokenvel », sans dire « madame le maire » ou quoi que ce soit, voilà. Donc, est contre le projet, et ce n'est pas pour rien que le collectif est aujourd'hui dehors. Donc, en s'adressant à l'ensemble des maires de Bretagne concernés par les permes. Donc, quand on essuie une attaque comme ça, je lui ai répondu. De là, j'ai eu le soutien de la maire de Loire-Gâte aussi. Voilà, on a été plusieurs à lui répondre et que ça manquait de respect. Voilà. Aujourd'hui, je ne veux pas, comme je vous dis, alimenter quelque chose. Par contre, comme le fait François, on peut créer aussi une instance d'information entre le collectif. Le comité de suivi, par contre, ce sera difficile que le collectif, si on veut vraiment voilà, qu'il y ait une entité où on a des élus avec... qui font appel à des professionnels, parce que c'est pareil, les professionnels, il faut que leur hiérarchie accepte qu'ils viennent. Et c'est le souci aussi pour nous, même nous élus. Donc aujourd'hui, c'est le collectif, ce sera encore voilà, une excuse, un moyen de nous dire que notre comité de suivi, voilà, c'est un mélange, c'est pas clair. On veut que ce soit très carré pour qu'il n'y ait pas d'excuses là-dessus. Par contre, tout ce qui est information... Moi, le samedi matin, je suis à la mairie, il n'y a pas de souci. On peut créer aussi des temps à ce moment-là pour en discuter. Nous, ce qui est fait, ce qui est, voilà, les retours, les comptes rendus, voilà, on peut aussi. Ça fait partie de l'information, de toute façon, aux administrés, enfin aux citoyens. Donc, nous, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, il faut qu'on trouve la possibilité de travailler, certes, ensemble, mais il faut savoir... que là, et je suis la plus honnête possible, c'est que ce ne sera pas possible au niveau du comité de suivi à cause, justement, de ce côté... à la première réunion, hein, je l'avais dit, il faut faire très attention. Nous, en tant qu'élus, notre positionnement, ils vont l'utiliser, quoi. Et c'est ça, notre problème. C'est qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, oui, ben, on va prendre... Mais il faut qu'on soit dans notre comité de suivi crédible aussi sur ce qu'on va avancer après, quoi.
Merci. Alors, s'il vous plaît, on fait un petit point. Donc, il y a ici Gaël, et ensuite Marc, et ensuite monsieur, et ensuite monsieur avec la casquette là-bas, et ensuite il y aura. Merci.
Je veux dire que je pense qu'on est nombreux à vous être reconnaissants, hein, et voilà, à apprécier vraiment votre courage, déjà. D'autre part, je voulais dire aussi que les informations peuvent aller dans les deux sens, même si on comprend bien que ça soit très inconfortable, voire, enfin, c'est vraiment un euphémisme, d'être associé, comme vous l'avez été, presque à l'initiative d'une manifestation de presse positive. Donc ça, c'est inacceptable. Donc effectivement, quand même... mettre les choses au clair, mais donc les informations peuvent aller dans les deux sens. Il y a plein de compétences dans leur bidoule et puis dans leur contact avec les populations et qui j'espère vont continuer à se renouveler, etc. Ce matin, il y a eu notamment, j'ai essayé de faire une présentation des anciennes mines d'uranium des Côtes d'Armor. Et je peux vous dire que c'est quand même incroyable de songer à ce qu'il puisse y avoir des nouvelles explorations, je dis bien même des explorations, sachant qu'il y a plein de trous béants, il y en a un tout près d'ici, du uranifère, et il y en a plein le long de la vallée du Léguer, il y en a le long de la vallée du Gerby, personne ne s'en occupe, hein, et c'est quand même dingue de se rendre compte. Et en plus, c'était des ouvrages de recherche. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'à partir de 10-20 mètres, on peut tout à fait percer une faille, faire des nouveaux chemins de l'eau qui va lessiver des roches dangereuses. Et on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, toute atteinte à la roche est dangereuse quand même. Possiblement.
Et à ce niveau-là, les services de l'État, l'autre jour, à la préfecture, étaient tout à fait d'accord avec ce que vous nous dites là.
S'il vous plaît,
que ça a changé, mais ils ont reconnu qu'il pouvait y avoir, avec les prospections, de tels problèmes qu'on ne verrait pas de suite. Hein. On va peut-être s'en rendre compte 1, 2, 3, 4 ans, voire plus.
Donc il y avait une question là-bas. Il y a plusieurs personnes à vouloir parler. Il faut un peu discipline, un peu attention, pas trop d'énervement.
Sur la côte, et j'ai vu qu'il y avait eu un affichage officiel de la part de la mairie très très bien présenté en se situant par rapport au projet de la sable. Là, on voit que c'est une commune qui se situe, qui prend position et qui a le courage de l'afficher correctement. Donc, je ne vois pas pourquoi l'ensemble de ces communes ne ferait pas la même chose, parce que ça irait informer au-delà des réunions que nous, on peut organiser, sachant que les trois quarts des gens qui sont là sont des gens qui se sentent concernés. Mais si on affichait ça à l'entrée de chaque village, chaque commune, ça sensibiliserait les gens qui viennent là en vacances, qui peuvent avoir des résidences secondaires, qui peuvent se sensibiliser aussi, l'ensemble des gens qui font du tourisme, qui seront aussi sensibilisés. Je reviens d'Ariège, j'ai vu les traces des usines Péchinet à Tarascon en Ariège. Il suffit de voir ça et d'aller au centre-ville pour voir le désastre social. Et là, on comprend ce que ça veut dire, l'exploitation minière. Donc je pense que les élus doivent avoir le courage de travailler avec leurs conseillers et de prendre position et de se positionner par rapport à cette histoire-là, ne serait-ce que dans un affichage.
La position, on a, Marc, on se positionne et depuis le début, on se positionne, Marc. De toute façon, ça, maintenant, ce qui est question de l'affichage, il faut savoir qu'on était en attente des réunions aussi concernées. Et faire une polémique, par contre, aujourd'hui, dans le comité de suivi, il va y avoir aussi des avancements à savoir qu'est-ce qu'on fait aussi au niveau médiatique, comment on peut justement un petit peu plus informer aussi, et donc à travers les élus, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que ça, le positionnement, il a toujours été clair, hein, là, que ce soit à Lokenvel, à Belle-Île, on a été contre dès le départ, dès la réception, on a été contre. Maintenant, ce qui est l'affichage, c'est de la quelque part, c'est de la communication et enfin voilà, on est aussi dans de faire connaître aussi et d'informer les gens. Mais il faut déjà savoir aussi où on va, qu'est-ce que c'est exactement, connaître bien aussi le sujet, parce que c'est pas le tout non plus d'être contre sans savoir avoir les arguments derrière non plus pour lutter aussi. Après, derrière, on nous demande des explications aussi. Hein, c'est pas juste être contre pour être contre. Hein. Donc voilà, aujourd'hui la question pour aller, oui, cet affichage, tu m'en avais déjà parlé, et oui, en effet, ça peut être une solution. Mais ça ne se décide pas seul, on doit aussi le faire entre élus, en parler. Mais c'est une proposition qui va être faite dans le cadre du comité de suivi.
Sinon, c'est une simple réponse, si les communes ne sont pas dans la capacité, le courage de prendre ce genre de décision, ce sera enfin, peut-être pas le courage, on habite tous dans ces communes-là, on a tous des terrains qui peuvent être proches de nous. On peut tous s'y mettre, hein, également dans l'affichage.
Merci. Il y a d'autres questions là. Ensuite, je crois qu'il y a un point, il y a une question là.
Vous avez pris d'abord une conseillère, une experte.
Non, s'il vous plaît. Tout à l'heure, je vous ai proposé la parole. Vous avez demandé la parole plusieurs fois. Quand ça a été votre tour, vous n'avez pas voulu parler. Maintenant, vous voulez intervenir. Non, je ne suis pas d'accord.
Oui, j'ai entendu parler d'association. Alors d'abord, une première clarification pour répondre à l'interlocuteur de tout à l'heure. Si vous avez un représentant et vous avez d'autres représentants d'associations qui sont complètement indépendants, d'accord ? Alors le prix à payer, ce sont les moyens réduits. C'est ce qui explique aussi que l'association Sauvegarde du Trégor que je présente n'a pas pu être présente tout de suite sur votre combat. Bien évidemment, l'association Sauvegarde du Trégor défend, bien sûr, votre combat sans la moindre réserve. C'est la première des choses. Et derrière l'association Sauvegarde du Trégor, il y a la coordination verte et bleue, qui est une coordination d'associations qui fonctionne en toute indépendance. Nous n'avons aucun permanent, nous n'avons aucun locaux, nous n'avons aucun dépliant glacé, papier glacé. C'est le prix à payer de l'indépendance. Ça, les choses sont claires. Maintenant, puisque nous sommes habitués, nous, à ce genre de combat, hein, parler du sable, je vois que chaque fois qu'il y a un combat, c'est une partie à quatre. Il y a les élus, il y a les associations, il y a l'administration, et puis il y a les citoyens et citoyennes. Voilà. Alors, c'est ce jeu à quatre qu'il faut essayer de régler où qu'il soit. Sachant que si on prend l'exemple du sable, des extractions de sable dans la baie de Lannion, c'est l'administration qui était la seule contre tous les autres. Puisque les associations comme les nôtres ont été au départ à l'origine de cette constitution d'un peuple des dunes, et puis les élus s'y sont mis, et il a fallu fonctionner en même temps. On verra si le fonctionnement a eu lieu très bien. J'ai un peu l'impression quand même que les élus ont beaucoup pris sur leur responsabilité le combat pour pouvoir aussi en faire un atout électoral. Bon, si après tout l'environnement est un atout électoral, c'est peut-être pas plus une mauvaise chose. Enfin, on a un peu l'impression que les associations sont passées un peu en dessous. Donc ça, c'est une chose. Mais en tout cas, il y avait les citoyens aussi, puisqu'ils étaient 6000, nous étions 6000 à dire nos extractions de sable. Résultat des courses. C'est l'administration qui est la plus forte. C'est elle qui donne l'extraction de sable. Donc c'est en fait cela qu'il faut essayer de faire. C'est faire en sorte que les associations, les élus et les citoyens et citoyennes soient au moins ensemble. Parce que même quand ils sont ensemble, on n'est pas sûr de gagner contre l'administration. Ça, c'est la première des choses. Et se dire dès maintenant que de toute façon, eh bien, le contentieux, c'est une chose. Bien évidemment, nous utilisons le contentieux, nous avons des affaires au tribunal administratif qu'on appelle, nous gagnons plus souvent. Hein. Mais au-delà du contentieux, il faudra peut-être aller plus loin. Alors, moi je dis qu'il y a tous les moyens pour aller plus loin, sauf la violence aux biens et la violence aux personnes.
Bien sûr.
Et il faut envisager dès maintenant de pouvoir aller plus loin que le contentieux s'il y a contentieux. Et donc, c'est ces modalités d'action qu'il faudra aussi aborder. Et voir comment, justement, des élus peuvent aller plus loin. Sachez que pour les extractions sables à la baie de Lannion, la question se pose de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas prendre bateau pour essayer d'empêcher ces extractions de sable? C'est une possibilité, sans le savoir, ce sera retenu. Voilà ce genre d'action qu'il faut aussi envisager. Et donc, ça veut dire aussi aux élus une certaine responsabilité. Et on a vu des élus qui étaient les premiers aussi à agir de cette façon-là. Ce n'est pas parce qu'on est, élus qu'on est plus citoyen ou citoyenne. Voilà. Évidemment.
Voilà. Alors, monsieur, si vous voulez intervenir. Ensuite, il y avait Gaël dans le fond, il y avait Janine et madame, si vous voulez prendre votre tour. Vous m'attendez ?
Voilà, je voulais. Pour la question de l'environnement et la qualité de l'eau, moi, en tant qu'agriculteur, on a œuvré dans ce sens-là aussi, parce que, comme vous savez tous, on a été contraints, on a fait des mises aux normes, donc on a dépensé de l'argent, subventionné aussi en partie, mais c'est quand même fait aussi dans le bon sens, parce que c'est pour améliorer la qualité de l'eau. Si par exemple, maintenant, c'est vrai que si il y a des mines de creuser, c'est peut-être défaire tout le travail qui a été fait en parlant.
Question tout à l'heure posée par la mine là, au sujet d'un état des lieux qui serait fait, et vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Est-ce que vous envisagez clairement de faire un état des lieux, justement, pas seulement sur les espaces naturels qui existent, sensibles ou pas, mais sur un bilan toxicologique, justement, sur ce qui existe dans l'eau, la terre, pour pouvoir, le cas échéant, avoir cet argument-là, si le pire se passe. Et aussi les moyens financiers. Parce que
non, on n'a pas envisagé. Enfin, là actuellement, il n'y a rien de fait non plus. Donc, voilà, et les cours d'eau, de toute façon, il y a déjà des analyses. Voilà.
Mais pas en détail, pas
Alors, voilà. Après, ça peut être une information qui peut être justement échangée dans le cadre justement de rencontres, un référent du comité de suivi avec un référent du collectif qui échange pour donner un peu l'information entre les deux. Voilà. Voilà, ça peut être aussi une information. Sachant que nous, aujourd'hui, voilà, la qualité d'eau, pas belle, il y a des contrôles qui sont faits quand même. Que ce soit, voilà, mais au niveau de l'état toxicologique, oui, par rapport à l'état naturel, quoi, peut-être de ce qui peut se faire, voilà, c'est ça, quoi. Avant, d'accord.
Peut-être pas, on veut discuter, mais par contre, je vous invite à prendre contact avec
les gens de la Creuse,
avec des gens de la Creuse qui ont établi.
Enfin, je voudrais quand même apporter une information à ce que vous dites. Il y a actuellement un travail qui est fait par l'association La Vallée du Léguerre pour obtenir un label rivière sauvage sur une de nos rivières. Donc je pense qu'à partir de là, il y a un travail qui est fait là-dessus. Bon, on n'a pas plus d'informations dessus. Bon, c'est une association qui travaille pour les collectivités, qui est basée à Belisandaire actuellement. Et donc, on va se rapprocher d'eux pour leur demander où ils en sont dans leurs travaux et éventuellement les questionner sur ce que vous dites pour faire un état des lieux actuellement.
Donc, je réitère mon observation. N'hésitez pas à prendre contact avec les gens de la Creuse, à qui on... Là-bas, il a la balle, monsieur, là, je me rappelle plus son nom, mais... Pardon ? Voilà, qui vont vous donner des pistes. Ouais. C'est pas des contrôles forcément de qualité, si j'ai bien compris, mais des contrôles sur la conductivité, sur pas chose.
Voilà.
Conductivité.
C'est tout. Ouais.
Ils vous expliqueront. Il y avait Jannick qui voulait poser une question.
Oui, moi je voulais par rapport à la question de Marc sur l'affichage. Donc, il y a quelques temps de ça, ça a été proposé lors de réunions publiques qu'il pourrait y avoir déjà un affichage comme ça avait été fait lors de l'enfouissement des déchets pour l'uranium auprès de, ouais, des communes. Ça avait été plutôt un nom général de la part des élus qui étaient présents. Hein. Parce que c'était trop tôt, qu'on n'avait pas assez d'informations, tout ça, je pense qu'ils pouvaient se comprendre. Maintenant, ceci dit, il y a des panneaux qui ont été faits par l'association d'Orbigoul et qui sont disponibles pour être mis chez des particuliers, notamment sur des routes passagères. Voilà.
Donc, madame, est-ce que vous voulez intervenir ?
Oui, je veux bien.
Juste un petit point, moi, qui me chiffonne dans tout ça, c'est le distinguo qu'on fait entre tous les groupes. Là. Finalement, les élus sont des représentants. Il ne faudrait quand même pas que le préfet l'oublie quand il vous reçoit. Il ne reçoit pas comme ça une entité. Vous représentez des gens. Parce que si la démocratie fonctionnait, il n'y aurait pas de collectif de citoyens. S'il ne veut pas que les groupes soient dans les grilles de la préfecture, il n'a qu'à faire fonctionner la démocratie.
Je ne peux pas répondre à la place du préfet.
Quand vous
êtes en face. Ah non, nous, en se positionnant, c'est clair qu'on se positionne, on représente les citoyens et chacun de chaque commune. Le positionnement. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont pour, hein. Attendez, c'est aussi. Voilà, alors quand on représente le citoyen. On pourrait faire à ce moment-là un référendum, non, contre le projet. Ça, ce serait citoyen, oui. Et à ce moment-là, peut-être qu'on aurait la surprise. Il faut faire attention aussi qu'à un moment donné, il y a des personnes qui n'ont pas toutes les informations et qui peuvent être pour ce projet, quoi. Donc.
Mais si le collectif a été créé, c'est parce qu'il n'y avait aucune information.
Oui.
De la part de personne. Ça, on en a déjà débattu là-dessus et je l'ai expliqué au tout début. C'est que nous, on avait donc eu les informations, mais tant qu'on n'avait pas des informations comme suffisamment d'informations et qu'on était toujours dans le flou, nous, on a alerté par un courrier. On voulait alerter par un courrier qui a été envoyé d'ailleurs, mais qu'en janvier, parce que de toute façon, il y a eu le collectif aussi qui s'est. Et moi, j'étais à la première réunion. Hein. Et par rapport à ça, moi, c'était aussi quel positionnement on avait, nous, en tant qu'élus. Le temps qu'on mette tout ça en place, il faut savoir aussi. qu'on est sur des œufs. Hein. Et on ne fait pas n'importe quoi en tant qu'élu, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas se permettre de dire « oui, on fonce, en effet, on y va, on doit réfléchir ». Déjà consulter les personnes. Au départ, il faut savoir qu'il y avait des personnes qui étaient pour, qu'on a réussi à faire changer d'avis aussi par rapport à l'argumentation qu'on a pu amener. Mais pour avoir de l'argumentation, il faut déjà aussi avoir de l'information. Il a fallu aller la chercher. Je vous rappelle qu'on est élu, on ne fait pas que le projet minier. On a énormément de dossiers. Donc là, en plus, on vient d'être élu donc avril, là, enfin mai, il y a un an. Et on peut dire jusqu'à octobre, on était mais vraiment au niveau de la paperasse administrative débordée. Qui plus est, à Lockenwell, la secrétaire, elle n'a que deux fois par semaine. Donc c'est encore pire, c'est moi aussi qui fais l'administratif derrière. Donc voilà, je veux pas m'excuser parce que ce que je me suis excusée lors de la première réunion de justement du manque d'implication des élus dès le départ, mais ça n'empêchait qu'on en parlait nous derrière et on voulait mettre des choses.
C'est pas mon propos, tout le monde ici a salué votre courage et votre engagement. C'est pas ça le propos. Mais je vois pas pourquoi ça poserait des problèmes pour qu'il y ait des passerelles entre les citoyens. Moi, je parle même pas.
A priori, si on a bien écouté Madame le maire de Lockenwell, je crois qu'il n'y a plus de problème de passerelles.
Oui, juste un détail et une question. Prospection à la place de exploration donnerait prospection et exploitation. C'est-à-dire supprimerait dans la tête des gens l'entourloupette du mélange. Je crois que si tous, chacun, à la place, systématiquement, on se remet, toi tu le dis, à dire prospecter, prospection, ça va finir par faire ça.
Oui.
Et puis la question, c'était, est-ce que vous connaissez un groupement d'élus qui ait réussi jusqu'à un jour à empêcher un projet comme ça de se faire ?
Je pense que ça doit exister. Il y a des projets qui arrivent. Oui, le gaz de schiste, et il y en a d'autres aussi, je pense, qui n'ont pas abouti. Bon, il y a 30 ans, à Belle-Île, le projet n'a pas abouti. Bon, c'est le comité qui s'était monté, qui a travaillé là-dessus et qui avait fait un énorme travail à l'époque. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu d'exploitation derrière.
Ce ne sont pas les plug-off.
Oui, il y a un plug-off aussi.
Donc, nous avons une question là.
Ah, c'est moi. Ah non. C'est toi ?
Je ne sais pas. C'est moi. Les agriculteurs.
Je suis agriculteur sur le canton de Calac. Pardon. C'était mon tour ?
Oui.
Je suis là depuis 40 ans en Haute-Cornouaille. Et mon village est sur l'eau. Il y a de l'eau tout autour de moi. Des marais, des étangs de moulins. Enfin, vraiment, il y a de l'eau partout autour de moi. Quand le camion passe sur la route, la maison tremble. Et c'est très aquatique comme milieu. Bon, c'est juste un petit commentaire d'agriculteur. Je voulais simplement faire une petite... commentaire très bref. Je suis là depuis 40 ans donc, et dans cette République, et je suis toujours très surpris à chaque fois comment le préfet agit comme un gouverneur militaire et fait la politique à notre place. Et ça, je trouve insupportable.
On est tout à fait d'accord avec vous.
Ouais. Et peut-être qu'il faut faire des constituantes, c'est un recours très menaçant.
Peut-être.
Ouais.
Oui, alors c'est donc une question au sujet. Bien sûr, entourez-vous de gens très pointus sur le plan juridique. Je ne sais pas si le conseiller juridique, enfin en soi, comme ça, lambda, serait bien, parce que c'est très complexe. Mais bon, donc ça, c'est bien de bétonner ses arrières, parce qu'il faut toujours travailler. Moi, je suis secrétaire d'une association, bon, Centre-Bretagne, qui propose au gouvernement, et nous sommes très pointus, mais dans toutes nos actions... Parce que finalement, nous faisons le travail de l'État à la place de l'État. D'ailleurs, les tribunaux administratifs, à chaque fois, et même les cours d'appel, nous donnent raison. Donc, pourquoi nous réussissons à être très pointus ? C'est parce que nous nous entourons de juristes, pas de conseillers de juristes, mais de juristes, vraiment, d'avocats spécialisés, et de scientifiques. Voilà. Et ça, c'est la clé. Parce que c'est comme ça que vous allez
convaincre l'opinion publique, parce que c'est l'opinion publique qui fera renverser la vapeur. Et votre préfet, eh bien, vous savez, nous, on en fait, j'ai des sous-préfets, des préfets, on a monté une compagnie théâtrale.
On vous trouve
donc, hier, nous étions en Perros direct pour faire une pique mascarade, puisque les cochonniers avaient fait une pique parade. Donc, vous voyez, moi, je peux venir aussi. Je suis voisin, je suis à Trébrigand. Donc, le préfet peut se déplacer à l'Hôtel Nouvelle, à Ville-Nantais, sans problème. C'est la compagnie Bococo.
Je pense qu'on va.
C'est vrai qu'à Trébrigand, il y a un championnat de cri du coq. Je peux comprendre.
Qui occulte celui du cochon et surtout du cri du pays que l'on égorge.
On prend une dernière question là, et après je vais vous proposer la mine qui est à l'initiative de cette journée va nous faire la conclusion de la journée.
C'est peut-être pas une question, mais c'est un encouragement au bien. Je participe avec quelques-uns ici à des luttes diverses depuis quelques années. Et oui madame, on a pu éviter le pire. Le pire a été évité, farine animale, incinérateur, centrale à gaz, on a évité du pire. On n'a pas tout évité, mais on arrive à en éviter, et les victoires sont discrètes. Elles ne s'affichent pas, ou très peu, on n'a pas les moyens de le faire. Alors ça, c'est fait par des collectifs dont nous faisons partie aujourd'hui, et je dois vous dire, et Madame le maire peut me le confirmer, que les préfets détestent les collectifs. C'est une armée mexicaine en face.
Là-dessus. Et c'est là où justement je voudrais que vraiment le collectif aujourd'hui comprenne notre position. On n'est pas là pour dire qu'on est anti et que voilà, on s'affiche pas, puisque sinon on ne serait pas venu, hein. François et moi on ne serait pas venu. Non, le problème c'est qu'aujourd'hui c'est stratégique. Excusez-moi d'employer ce terme-là, mais on est dans une stratégie où on ne veut pas leur donner, raison. Nous donner des arguments qui pourraient faire discréditer justement ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Et en aucun cas, je sais que le collectif est un collectif de citoyens et que les citoyens ont le droit à la parole. C'est la raison pour laquelle la passerelle que je propose, c'est qu'il y a un référent du collectif et donc nous, quelqu'un de référent aussi au niveau du comité de suivi, qui se rencontre pour échanger dans ces cas-là. Mais qu'on se limite à ça de manière à que nous, on positionne en disant « on informe nous le citoyen ». Parce que si on, je vous dis franchement, on fait participer le collectif à notre comité de suivi, on est discrédité et ça va être, on va dire, ça qui va être mis en avant. Je l'ai très vite compris dans la réaction de plusieurs, hein, parce que j'ai eu appelé aussi l'Adréal, j'ai appelé le Variscan Mine, j'ai appelé... Voilà, et c'était l'étiquette que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était le collectif. Or, moi, je n'ai rien contre le collectif. Au contraire, je trouve que c'est important que les citoyens fassent cela. Même si, normalement, on est les représentants, que ce serait à nous de le faire. Mais aujourd'hui, on le fait, mais d'une certaine façon.
Vous l'avez déjà exprimé. Ouais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que plus il y aura de groupes en face d'eux,
plus
ils seront ouais. Désarçonnés.
Aujourd'hui, oui.
Et c'est notre force. Ouais. C'est notre force d'être différents, mais tous dans le même but.
Et voilà. C'est ça. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a tous le même combat, quelque part, les mêmes. On est contre le projet, alors après, on a un positionnement différent, et ça, c'est important qu'on en tienne compte, parce que, voilà, il faut aussi. Faut pas se leurrer. Dans le collectif, il y a aussi, et je l'avais dit lors de la première réunion, une étiquette aussi politique qui s'affiche, qui peut faire peur. Non, mais je le dis franchement, non. Non. Je le dis par rapport à ça, parce que ça fait peur à certains élus, voilà, par rapport à la représentation.
C'est un témoignage que je vous ai apporté. Ouais. Il faut que je sois rapide, parce que vous coupez la parole et je peux pas aller jusqu'au bout. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Gaspard, qui lutte contre la centrale à gaz. Certains l'ont déjà entendu ici. Mais nous avons amené des spécialistes à réfléchir sur les questions, et le pouvoir en place n'a pas pu remettre en cause notre analyse. J'ai fait partie des analyses il y a quelques années pour les stations de transfert par pompage, d'énergie par pompage. Le pouvoir en place n'a jamais réussi, et c'est là où nous avons une chance d'enfoncer le clou à chaque fois. Bon. Qu'à la fin, ils décident malgré tout de mettre la centrale à gaz à Guipava, ça, on n'y peut rien, c'est eux qui ont le carnet de chèques, c'est eux qui ont la signature, on n'y pourra rien, c'est eux qui ont le pouvoir, et ça, malheureusement, il faut l'admettre, quoi. Mais que l'on ait
il faut que l'on soit convaincu que nous avons une force qui était déterminante dans le poids que nous avons en tant que citoyens et dans la qualité de l'expertise que l'on peut amener aujourd'hui grâce à des personnes comme André Picot, Yann Olivaux ou d'autres que l'on rencontrera par la suite. Et là, le pouvoir en place déteste vraiment cela.
Donc, moi, pour conclure, je vous dirais que je ne trouve pas qu'on fait preuve d'un grand courage en venant ici. Au contraire, pour moi, c'est un plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous. Je pense et je regrette quand même que les maires qui sont pour ne s'affichent pas, ne nous donnent pas leurs arguments. Ce que je pense aussi, c'est qu'on a fait... Il y a 25 communes de prévues, parce que bon, ça fait pas mal, mais que toutes les communes ne sont pas concernées de la même façon. C'est-à-dire que je fais une différence entre ma commune où on sait qu'il y a des gisements identifiés, où on sait que les prospections oui, vont aller très rapidement, et que sans doute il y aura exploitation après. Donc s'il y a 25 communes, si on interroge les 25 communes actuellement, on doit être 5, 6 ou peut-être 7 à être contre. Les zones ne se sont pas prononcées, donc elles sont pour. Argument pour le préfet, ben, vous voyez, la majorité est pour, vous êtes une minorité contre, donc c'est d'autant plus facile pour lui de lancer et de donner son aval pour que les prospections puissent commencer, quoi. Là-dessus, c'est une première chose. Deuxièmement, ça aurait été courageux qu'un maire qui soit pour vienne ici discuter. Bon, là, c'est faire preuve de courage. Bon, je vois aussi qu'il y a pas mal d'élus dans la salle qui ne se sont pas exprimés, mais qui sont venus quand même aussi chercher des informations, et c'est très bien de leur part. Je les remercie d'être présents ici avec nous aujourd'hui. Merci.